France Inter, le 7-9. Intervenez.
On parle des bibliothèques avec l'invité de France Inter ce matin, Éric Orsenna, écrivain, membre de l'Académie française, dernière nouvelle du monde aux éditions Robert Laffont dans la magnifique collection Bouquins. Et dernier livre en date, Éric Orsenna, on va en dire un mot tout à l'heure, Désir de ville, petit précis de mondialisation, volume 5, également chez Robert Laffont. Il y a énormément de questions au standard sur le rapport que vous avez remis, sur les moyens pour financer ces ambitions, énormément de questions au standard sur les réseaux sociaux. Marianne, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Je vous appelle, merci, je vous appelle donc de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. C'est un petit village au fin fond de l'Ardèche. Moi, je suis bénévole dans une bibliothèque municipale qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Donc, on fait ce qu'on peut avec le temps que l'on a. Je voulais avoir un petit peu plus de précision sur ce qu'a dit M. Orsenna tout à l'heure, à savoir que l'État donnerait 8 millions d'euros pour en direction des petites bibliothèques. Je voulais savoir pourquoi faire précisément. Et puis aussi une autre petite question, savoir ce qu'il pense du retour, je dirais, de la morale. Je vous explique, on travaille avec la bibliothèque départementale et qui nous a demandé d'enlever les Martines, alors les anciens Martines, vous savez, les petites BD pour enfants là, parce que sur les anciens par exemple, on voit Martine qui fait des roulades et on voit sa culotte. Et ça, c'est pas bien. Alors, on nous a demandé de retirer de la bibliothèque. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu ce qu'il pensait de.
Merci, de ça. Merci Marianne. Alors, déjà sur les 8 millions d'euros, la morale ensuite.
D'abord, l'Ardèche, je salue l'Ardèche parce que j'ai vu des responsables de la lecture en Ardèche et notamment des bibliobus. Parce qu'il y a des bibliobus qui se baladent un peu partout. Il y en a un qui se balade un peu partout en Ardèche et c'est un travail absolument clé. Alors, 8 millions, c'est pas grand chose. C'est lié à une initiative. C'est-à-dire, quand un élu, quand une équipe municipale, d'une ville décide d'ouvrir, c'est-à-dire manifeste son ambition d'ouvrir plus, elle prend contact avec la Direction Régionale d'Action Culturelle qui va l'aider à bien préciser son projet. Et ensuite, il y aura donc un effort accru de la municipalité et puis il y aura la possibilité d'utiliser cette ligne supplémentaire qui n'est pas suffisante, mais honnêtement, ça a déjà été une bataille incroyable pour l'obtenir et sans l'appui au plus haut niveau, on ne l'aurait pas eu. Premièrement. Et deuxième question. La morale. Alors, on est dans un monde quand même qui devient de plus en plus fou. C'est-à-dire qu'on va changer la fin de Carmen, parce que c'est pas bien. On va changer absolument tout. On refuse à Michel Déon d'être inhumé à Paris où il est né, etc. etc. Donc, il y a des œuvres qui ont été écrites, qui ont été créées un peu partout, mais on continue. Qu'est-ce que ça veut dire, la morale? Vous savez...
Il faut, pour répondre très concrètement à notre auditrice, il faut
gardons les Martines.
Voilà.
Gardons les Martines.
Faire circuler les Martines.
Gardarem, Lou Martine.
Eh ben voilà.
Voilà. Et là, je viendrai manifester pour garder les Martines.
Allez, on retourne au standard. Anne, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Anne. Bienvenue.
J'ai écouté très intéressée la candidate, enfin la personne juste avant moi. Effectivement, moi, je me pose la question des moyens, parce que le bénévolat, ça s'essouffle. C'est trop facile de compter toujours sur le bénévolat. En général, les personnes qui s'occupent des bibliothèques sont des femmes. Elles font des heures pas possibles pour rendre service. Elles sont payées une misère, 1200, 1300 maximum, avec des CDD enchaînés, alors que c'est interdit par la loi. Comment peut-on vivre déjà avec ce genre de salaire quand il faut payer ses charges et son loyer? Donc moi, je me pose vraiment la question du financement. Par contre, je suis tout à fait d'accord, effectivement, d'ouvrir aux heures où les gens sont disponibles. C'est en fait le but des bibliothèques. Mais bon, le bénévolat, ça suffit. Nous donner des miettes, moi, j'ai fait 20 ans de bénévolat. Je m'essouffle et je commence vraiment à trouver ça exagéré. Monsieur Orsenna nous dit que les mairies vont aider, et on aura une petite aumône de l'État pour développer un produit. Non, c'est pas
bien
ça,
compris.
Ça démarre mal.
Bien compris, Anne. J'ajoute à cette question une autre qui nous vient de l'application de France Inter. Nathalie, je suis bibliothécaire. Comment ouvrir correctement sur de plus larges plages horaires? C'est bien beau les bénévoles, les contrats aidés, mais oubliez-vous que c'est un métier qui nécessite une formation pour répondre correctement aux demandes des usagers. Si les personnes qui nous aident à ouvrir ne sont plus formées, le service public sera proposé de manière dégradée. Est-ce le but? Laurent Lucas sur Twitter, ils sont payés comment les personnels des bibliothèques londoniennes et new-yorkaises? 4 dollars de l'heure, point d'interrogation. Ceci expliquerait cela. Eric Orsena, même question des moyens, question, des formations, mais... et puis des statuts. Le bénévolat, effectivement, bien. C'est un geste alors, magnifique, mais épuisant.
Alors, premièrement, il faut savoir, et c'était vraiment l'objectif premier de ce rapport, est-ce que les bibliothèques, c'est utile ou pas? Et les bibliothèques, pas seulement du livre, mais toute cette présence culturelle et cette ouverture, cette marche vers le livre. Bon, alors la réponse, elle est claire. Et le soutien du président de la République, il est clair. Maintenant, il y a un rapport qui a fait l'état des lieux. Et puis, c'est au ministère de la Culture. Mais pas seulement. C'est-à-dire au ministère, c'est interministériel. C'est-à-dire, il y a l'éducation nationale, il y a l'enseignement supérieur, etc. Donc, premièrement. Deuxièmement, pour les personnels, j'ai dit... Nous avons dit et redit que d'abord c'est un métier. Et sans vouloir faire un jeu de mots, mais je l'assume, tous les métiers sont des métiers à tisser. C'est pas du bénévolat, c'est un métier qui tisse du lien. Comme on a vu avec les agriculteurs, ils tissent. Donc c'est 38 000, c'est un métier. Et la question qui se pose avec ce métier magnifique de bibliothécaire, c'est que ce métier a évolué et qu'ils sont pas formés pour avoir cette nouvelle dimension du métier. Parce que dans le métier, il y avait plus de relations avec les livres qu'avec les êtres humains qui demandent des livres. Maintenant, il y a la notion d'accueil pour les services les plus divers. Donc, il faut évoluer. Et dans toutes les formations de ces statutaires-là, premièrement. Deuxièmement, s'il n'y a pas cette articulation entre les bénévoles et ce stade intermédiaire que sont les emplois aidés, emplois aidants, ça marche pas. Et c'est pas seulement dans le domaine culturel. J'ai vu 3 patrons de fédérations sportives. S'il n'y a pas que le PSG dans le sport. Et si vous avez pas ces gens-là qui sont... à moitié bénévole, mais à moitié aidé ou aidant, vous n'avez pas cette structure. Donc vous n'avez pas ces 200 000 personnes qui sont au service du livre aujourd'hui.
Oui, retour au standard. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci. Juste en préambule de ma question, je voudrais rebondir très très rapidement sur le fait qu'une auditrice hier, M. Domorand, vous a interpellé sur le fait que vous invitez rarement les députés communistes sur votre antenne. Et c'est vrai que je suis un auditeur fidèle de l'émission et je trouve ça un peu dommageable et j'espère juste que vous allez remédier à cette situation.
On va y remédier, promis Thomas. Votre question.
C'est très gentil. Monsieur Orsena, j'ai bien vu votre rapport et je suis un petit peu inquiet sur le fait que malgré tout, malgré vous peut-être, je n'en sais rien, vous introduisez une logique de marché dans l'ouverture des bibliothèques avec un petit peu des ouvertures à la carte, la flexibilité. Alors moi-même, je suis étudiant à Paris, je connais bien les heures d'attente dans les files devant les bibliothèques et je trouve ça dommageable qu'on en arrive à cette logique-là dans la culture qui était un peu protégée jusqu'à maintenant et j'aimerais bien que ce soit toujours le cas.
Donc ouvrir les bibliothèques le dimanche, c'est comme ouvrir les magasins, Thomas, si on pousse le paradoxe.
C'est un peu la même logique, effectivement, oui.
Ah bah ça, c'est quand même assez étrange.
Merci
alors,
Thomas. Eric Orsena.
Puisque j'ai cru comprendre vos liens assez et tout à fait honorables avec le Parti communiste, je vous invite à lire l'article de la spécialiste des bibliothèques dans l'Humanité d'hier, qui disait « Enfin un rapport qui met en avant la notion de service public de la culture ». Et franchement, il n'y a rien à voir entre un magasin où on vend et une culture où on apprend à réfléchir.
Dominique, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci d'avoir pris ma question. Voilà, justement, c'est en lien avec la question précédente et avec les autres. J'aimerais savoir quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre, j'avoue que j'ai pas vraiment de réponse, pour amener les gens qui ne vont pas dans les bibliothèques à y aller, plutôt que dans les centres commerciaux, sachant que pour eux, la culture, ça fait peur, et que, comme vous le disiez... Ils pensent que ça n'est pas pour eux. Et est-ce qu'on ne pourrait pas penser, j'ai entendu tous ces gens qui sont bénévoles, que cette ouverture plus importante pourrait amener des créations d'emplois?
Merci pour cette question. La bibliothèque face au centre commercial, comment faire?
C'est exactement ce qui se passe. Déjà, la moitié des bibliothèques, c'est-à-dire plus de 8000 bibliothèques aujourd'hui, sont ouvertes à des tas d'autres partenariats avec les écoles, avec les maisons de santé, avec les centres de détention, avec les EHPAD, c'est-à-dire avec les bureaux de poste, c'est-à-dire porter des livres à domicile. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce qu'on a vu, et assez émerveillé, une sorte de tissage encore. Vous savez, beaucoup de gens sentent qu'il y a une sorte de détricotage de ce qui se passe dans notre nation. Et donc, ils sont là. Et la bibliothèque est clé pour essayer de retisser un petit peu tout ce qui est en train de se déchirer. Donc, c'est ça, il faut leur donner les moyens de le faire. Et encore une fois, ça passe par la vraie responsabilité de l'État, mais en même temps, ce qui se passe avec les élus. Et vous savez, il faut bien... Si les électeurs veulent que chez eux, il y ait des lecteurs, eh bien, il faut qu'ils virent les élus qui n'aiment pas les lecteurs.
Agnès, sur l'application d'Inter, dans les petites villes, pourquoi ne pas ouvrir des bibliothèques dans... ou à côté des bureaux de poste?
Mais c'est en train de se faire. C'est en train de se faire parce que, vous savez, le destin est commun entre la poste et les bibliothèques. Il s'agit de l'écrit. Il s'agit de l'écrit, c'est pareil. C'est ce tissage-là qui est de l'écrit, donc ils sont pareils. Et Philippe Val, le patron de la poste que je connais bien, il est tout à fait ouvert, je puis dire. Et donc, vous savez, le romancier, il est comme le facteur, il essaye de sonner deux fois.
Énormément de questions, en tout cas, sur ce sujet, je vous le dis, Eric Orsena, c'est... les auditeurs d'Inter se mobilisent en masse sur la question des bibliothèques. Juste une question, Désir de Ville, petit précis de Mondialisation 5, c'est le titre de votre dernier livre chez Robert Laffont. Qu'est-ce que l'amoureux de la mer, des grands horizons, des bateaux, du large, de l'air pur, mais qu'est-ce que vous avez avec les villes? 200 parcourus dans ce livre.
Mais parce que quand je me suis promené pour faire le tour du monde du coton, le tour du monde de l'eau, le tour du monde du papier, le tour du monde du moustique, j'ai rencontré des villes partout, puisqu'il y a la moitié de la population qui vit en ville, donc ça peut intéresser les êtres humains. Il y a 50 agglomérations aujourd'hui qui dépassent 10 millions. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que les Chinois, ils ont inventé la maladie de la grande ville. Mais pour eux, la grande ville commence à 20 millions. Donc, tu vois. Et donc, j'ai été à Chongqing, une petite localité de Chine, et je félicite le mec du coin, là, de Suez, qui avait gagné un contrat d'un million de nouveaux clients. Je lui dis bravo, bravo. Il dit, ce n'est que 1/33e de la ville. Je dis, ouh, là, tu commences à frissonner. Donc, j'ai essayé de voir quelles étaient les villes, les bonnes, les mauvaises, avec Nicolas Gilsoul, qui est architecte et paysagiste, et on a été dans des villes un peu partout. Alors, il y a des villes qui sont des cauchemars, et puis d'autres qui sont super.
Paris,
c'est pas
champ
mal.
De bataille cette
Paris,
semaine.
Il y a un champ de bataille en ce moment.
Ouvrir champ de bataille. Les rives, les fermer.
Rives tout ça, un champ de bataille, mais alors, il y a d'autres villes. Bah, j'aime bien Paris, c'est vrai, j'aime bien Paris.
Vous aimez bien marcher sur les quais de Seine fermés à la circulation?
Oui, quand j'ai des palmes ces temps-ci, oui.
Oui, c'est
et
ça.
Autrement, voilà. Et autrement, non, mais il y a des quartiers à Lyon magnifiques, Nantes c'est magnifique, etc. Mais il y a Vancouver, mais il y a Seattle, mais il y a Hambourg, mais il y a... C'est-à-dire...
Ah, c'est un guide de voyage, hein, de la ville mondiale.
Ah bah c'est-à-dire le cauchemar, n'allez pas à Chinin à 2600 mètres d'altitude. Quand vous entrez à l'hôtel, vous voyez une bombotte d'oxygène dans votre chambre. Vous dites, je vais me calmer dans les ébats, même à mon âge, bon.
Eric Orsena, restez avec nous.